Bienvenue à cette édition de Contitance sportive sur les ondes de Chiz 94.3. Charles Leblanc à l'animation, en compagnie de Félix Lajoie et Jacob Letourneau. Comment ça va les gars?
Ça va bien toi Charles?
Ça va bien. Toi Jacob?
Ça va super.
Première radiophonique, pas trop stressé?
Non, ça va, on est détendu,
c'est parfait ça. Écoute, beaucoup d'actions dans le monde du sport cette semaine et la semaine dernière. On va commencer par ce qui a fait réagir, je pense, tous les Québécois amateurs de sport. Victoire des Alouettes de 24-8 contre les Blue Bombers de la Coupe Grey. Je pense qu'on peut en parler tout de suite de l'entrevue d'après-match de Marc-Antoine Decoy qui a fait réagir. Comment vous avez vécu ce moment-là, les gars?
Très clairement, ça a fait réagir. Moi, j'ai vu un beau petit symbole de nationalisme. On a vu quelqu'un qui était fier non seulement de son équipe, mais clairement de sa nation, du Québec. Ça a été super beau à voir, fier de sa langue. Puis bon, on est content d'avoir vu les Alouettes gagner ce championnat.
Ouais, ben oui, ben Marc-Antoine Decoy, il a dit les termes, là. Charles, tu l'as dit sur Twitter, là, ben, sur X. Pour le vrai, je pense qu'il voulait pas nécessairement dire qu'il allait voter pour le... que c'était...
Ouais, il a pas fait une déclaration d'indépendance.
Une déclaration d'indépendance, mais tu sais, le monde l'ont vu de même, mais ça reste que, tu sais, il a juste dit qu'il a soulevé un problème qui était réel, dans le sens que, ben, la Ligue canadienne de football, ben, tu sais, il y en a juste pour les anglophones.
Ouais, il manquait la présence du français en finale de la Coupe Grey, puis aussi, tu sais, les experts, mettaient les Alouettes 9e, dans les classements, donc dernier au début de la saison. T'allais sur TSN, ça disait Toronto contre Winnipeg, tu sais, je pense qu'il y avait un petit, les gars sentaient un manque de respect, puis même si, tu sais, l'erreur de TSN, c'était peut-être pas volontaire, mais en tant que sportif, t'utilises ça pour te craquer. Puis je sais pas si vous sentez la même chose que moi, mais les Alouettes, ça avait un peu perdu de son aura là, depuis le départ de Calvillo. Il y avait des saisons difficiles, mais je pense que là les joueurs ont réussi à créer un mouvement, puis probablement que l'année prochaine ils vont avoir plus d'attention sur eux.
Ouais, clairement, on est en train de redorer le blason des Alouettes, puis c'est une excellente manière de le faire. Puis on a vu que clairement c'était pas nécessairement un message politique essayer de passer ou quoi que ce soit, mais reste qu'en ce moment ça montre qu'il est fier de son équipe, puis ses coéquipiers l'ont appuyé. On a vu, je pense, c'est sur les ondes d'RDS aujourd'hui, que certains de ses coéquipiers lors de la parade qui sont allés puis qui ont pris sa défense de son mouvement pour dire on sait que notre ami s'est pris des vagues de déferlement de haine puis de whatever ses réseaux sociaux, puis on s'est moqué de sa tête. Mais au final, on est tous fiers comme lui, puis on trouve que c'est quelque chose de spécial de jouer pour une équipe comme d'une ville comme Montréal. Donc, ouais.
Ouais, ça prend du courage, là, ce qu'il a fait pour le vrai. Je connais pas vraiment de monde qui aurait fait ça, puis surtout que, ben, tu sais que les répercussions vont s'en venir, mais je pense que tout le peuple québécois était derrière lui, puis même, tu sais, tu l'as dit, les experts les placés 9e, tu sais, en tant que tel, ben, tu sais, on peut dire que, bon, peut-être que les Alouettes étaient pas bons au début de l'année, peu importe, il y avait un nouveau propriétaire et tout, fait que, ça, c'est peut-être justifié, mais, tu sais, comme t'as dit, juste d'écrire Argonauts comme Blue Bombers, ça, c'est inacceptable, puis même en demi-finale, ben, le match à Toronto, même pas le début national en français, je veux dire, c'est quand même les Canadiennes, là, je veux dire, maintenant.
C'est ça, ça sortait pas de nulle part non plus.
Non, c'est ça, il y avait raison.
Puis aussi, ce que j'aimais beaucoup là, de Marc-Antoine Decoy, c'est qu'il disait souvent « on a gagné » en parlant des partisans. On a gagné ensemble, puis il incluait beaucoup les partisans, puis il se mettait à dans le fond, où est-ce que lui était en 2010, à la dernière conquête de la Coupe Grey, alors qu'il était un partisan, puis il célébrait, je l'ai vu aussi à la parade, là, il disait, il avait pris le micro, il s'adressait aux gens sur place, puis il disait « en 2010, j'étais exactement à votre place, puis là, c'est pour vous. » C'est important de créer des liens, puis on parle souvent du CF Montréal ici. Je pense qu'il pourrait tirer un peu une page du livre des Alouettes en ce moment de miser, parce que l'impact a beaucoup de joueurs québécois, mais je pense qu'on pourrait miser encore plus, mettons, sur l'élément communication, la proximité là, avec les partisans québécois.
Ben oui, t'as tout à fait raison, Charles. Puis, tu sais, c'est le fun en tant que tel aussi que tu sais de quoi il rejoint un peu le public. Puis j'ai aussi vu que ben au début de l'année, les joueurs des Alouettes ont comme appris un peu la culture québécoise, dans le sens que tu sais les gars disaient leur numéro en français et tout. C'est pas grand chose. Ça reste que tu sais tous les gars un peu entrés dans ce moule-là, la culture québécoise. Je dis pas que c'est à cause de ça qu'on a gagné le trophée, mais tu sais, tu joues pour une équipe à Montréal, c'est important que tu saches que si ça parle français ici, puis pas nécessairement anglais. Là. Fait que tu sais même des gars qui parlent juste anglais, là, Austin Mac, peu importe, mais tu sais gars qui vont savoir quelques mots en français pour pouvoir s'exprimer aussi quand ça va être la parade, justement, aujourd'hui, comme on a vu. Fait que, ouais, je pense que pour eux, c'est une bonne affaire, là.
Ouais, puis c'est impressionnant. Le coach est américain, parlait pas français avant d'arriver ici. décide de demander à ses joueurs d'apprendre un peu de français, comme tu disais, Félix, leur numéro. C'est pas le français qui les a fait gagner, mais c'est de se créer une identité d'équipe. Quand tu mets les efforts ensemble, ça crée des liens aussi. Là, d'apprendre le français, c'est pas facile, mais quand tu fais ça en gang, tu t'entraides, je pense que ça crée des liens en dehors du terrain, puis ça l'a payé. Je sais pas aussi, ça a payé en défensive. La défensive des Alouettes là, était exceptionnelle. Je sais pas si Jacob, si tu viens de Québec, on se connaît depuis pas si longtemps. Je sais pas si tu viens de Québec ou si t'as regardé le football universitaire.
Ouais, ouais.
Marc-Antoine Decoy, on a aimé le détester à Québec. Il était excellent avec les Carabins. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi j'aime mieux l'aimer avec les Carabins que le détester. L'aimer avec les Alouettes que le détester avec les Carabins. Là.
Ah ben oui, totalement. C'est le fun. Au final, maintenant, on peut tous l'aimer.
Ouais, c'est
sans
ça.
Problème.
Non, c'est, ça.
C'est pas difficile d'aimer un Québécois qui a l'air autant passionné que lui. Là. Donc c'est super le fun d'avoir un gars comme ça. Puis comme tu disais tantôt, ben au final, hein, sans les passionnés comme nous, puis les passionnés en général, les fans de sport, ben le sport ça aurait pas lieu au final. Hein, parce que c'est ça qui fait vivre le sport. Donc c'est le fun d'avoir un petit moment de reconnaissance comme ça d'un sportif de son niveau.
Ah oui, c'est vrai. Puis c'est, tu sais, les partisans, on est pour grand chose aussi. Là, quand il y a un match, puis il y a un groupe de partisans qui sont derrière, l'avantage de la maison, ça joue. Là, tu sais, les partisans qui crient, qui t'encouragent, man, ça fait de quoi. Puis on l'a vu à Hamilton, il y a quand même gros de partisans des Alouettes. Là, fait que c'est sûr que ça aide quand tu joues, puis ben, veux pas. C'est ça, là, ça te donne une chance de plus de gagner le match quand tu joues à domicile ou quand t'as des partisans qui sont derrière toi, alors que si t'es partisans, ben, ils s'en foutent un peu de ton équipe. Comme c'est le cas pour certaines équipes professionnelles, ben, tu sais, c'est sûr que c'est différent.
Bon, écoute. Je pense que les Alouettes vont essayer. C'est juste dommage pour eux qu'il y ait une longue entre-saison parce que je pense qu'ils aimeraient surfer sur la vague qu'ils viennent de créer. Mais personnellement, je vais prêter encore plus d'attention aux Alouettes la saison prochaine. Comme t'en parlais, Jacob, là, je pense qu'on a découvert un passionné en Marc-Antoine Decoy. On savait qu'il était bon sur le terrain, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont associés à l'être humain qu'il était.
Ouais.
En sortant de l'avion, il était peut-être un peu hangover là, le lendemain de veille quand les journalistes l'ont attendu en sortant de l'avion. Il s'est un peu excusé, revenu un peu sur ses propos.
On peut le comprendre.
Ouais,
Mais il s'est excusé, mais il a quand même assumé son poids.
Ouais, dans le sens que, ben oui.
Ça, je pense que c'est bon. Là, il l'a dit, puis il a raison. Là, je veux dire, il aurait pu complètement dire « Ah, c'est pas vrai, je m'excuse tout », mais il quand même... T'sais, même en anglais, là, quand il l'a dit sur le terrain,
il l'a répété
juste de manière plus polie.
Ouais, c'est moins, un peu
plus
moins émotif.
Plus de classe et moins d'émotion. Là, t'sais, c'est ça.
Mais c'est ça. Fait que je pense qu'on va suivre les Alouettes avec attention l'année prochaine. On va enligner tout de suite avec la NBA. La saison est commencée là, depuis quelques mois déjà. On est en plein cœur du tournoi intra-saison. Je sais pas, mettons, si Félix, qui suit pas trop la NBA, t'sais, c'était... T'es full au courant de ce qui se passe avec ce tournoi-là, là.
Ben, je savais qu'il y avait un tournoi intra-saison. Je connais un peu la formule. Ben, tu sais, je me pose des questions encore, puis je sais pas trop. Je sais que le commissaire Adam Silver, il a dit que on veut faire un tournoi qui va faire en sorte que ça va être un peu comme les ligues européennes, genre la Ligue des champions au soccer et tout. Mais c'est juste que à NBA, t'as comme le même nombre d'équipes. Donc, tu sais, c'est les mêmes équipes qui vont jouer dans le tournoi qui vont s'affronter dans la saison régulière. Donc, je pense pas que c'est nécessairement une bonne nouvelle, mais ça reste que ben il y a de l'argent en jeu et tout, pis ça vend des billets, fait que c'est sûr que le monde soit content, mais la formule est peut-être à revoir, puis j'ai peur un peu que ça tombe dans l'oubli puis ça se prend une première édition quand même manquée là.
Ouais, ben c'est ça, on va voir, mais tu sais, c'est intéressant que tu dises que t'es pas nécessairement un fan du concept, parce que je pense que c'est un peu pour ça là, pour aller chercher des nouveaux partisans, ou tu sais, tu parlais du parallèle avec le soccer, ça ressemble aussi un peu à la FA Cup si on veut, ou ouais, des ligues comme ça. Toi, Jacob, t'es-tu capable de nous expliquer un peu comment ça marche, le concept plus en détail, ou tu...
Eh boy, je vais pas être capable de te faire un très bon résumé de la situation. J'ai à peu près la même analyse que vous pour le moment. C'est un tournoi qui est un peu flou à mes yeux. On avait l'air de parler que ça impacte les matchs de la saison, impacte le tournoi et vice-versa. Donc, je sais pas trop, mais effectivement, la façon que je le vois, c'est un genre de petit tournoi intra-saison, un peu style FA Cup.
Ouais.
Même si la FA Cup en soi, c'est peut-être un peu plus étalé sur l'année, c'est dur à dire.
Ouais, c'est ça, je disais.
Ça fait plus penser à la Leagues Cup, mettons, qu'il y avait les équipes de MLS puis la Liga MX, mais tu sais,
ouais,
il y avait des autres équipes, il y avait des équipes différentes, là, c'est quoi le but de faire un tournoi, qui au final, ben, tu vas affronter les mêmes équipes pendant le tournoi qu'à la saison régulière, puis c'est juste, tu sais, ça rajoute des matchs. Mettons, tu gagnes tu t'en vas jusqu'à la finale, mais t'as joué plus de matchs que l'équipe qui s'est éliminée en phase de poule. Fait que, tu sais, si t'es éliminé en phase de poule, je sais pas t'as combien de jours de repos, là, mais clairement que t'as deux semaines de repos à rien faire avant de jouer tes autres matchs, là, de saison régulière. Fait que, tu sais, je comprends pas trop, mais, tu sais, je suis pas contre les deux, mais t'as la raffiner et l'améliorer un peu.
Ouais, c'est ça, c'est une année, prototype, là. Ils essaient, ils testent, ils vont voir ce qui marche, ce qui marche pas, là. Je vous ai un peu mis, lancé en dessous du bus, si on veut, là, pour l'expliquer à ceux à la maison. Dans le fond, le tournoi, là, il y a trois poules par conférence. Les équipes jouent des matchs. Il y a cinq équipes par poule. Donc c'est un peu comme un tournoi à la ronde pour la phase préliminaire. Ensuite, les meilleurs de chaque poule se rendent en quart de finale avec deux meilleurs deuxièmes. À partir de là, je pense que c'est des matchs à élimination directe. Il y a des prix, donc si je me trompe pas, là, ben, des prix d'argent pour ceux qui se rendent en quart de finale. Ensuite, des prix d'argent pour ceux qui se rendent en demi-finale. Et les matchs par élimination sont joués à Las Vegas. Et la NBA Cup est remportée par celle-là qui gagne la finale avec une somme d'argent de $500,000, je pense. Les matchs, comme tu disais, Jacob, là, ils impactent les matchs de la phase préliminaire sont inclus dans la saison régulière, dans les 82 matchs. Par la suite, ça ne l'est pas. Fait que je pense qu'il y a des équipes qui vont jouer un peu plus de matchs. Là. Il y a d'ailleurs des joueurs qui c'était un peu une de leurs craintes là, d'ajouter des matchs à une saison qui est déjà assez longue. Je pense que c'est pas une énorme réussite du côté de la NBA, alors que personne ne semble trop comprendre le tournoi. Là. Faut, même les joueurs, je sais pas si vous avez vu passer ça un peu. Tu demandes à des joueurs, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Il y en a qui disent, oh, c'est pas compliqué. Il y en a d'autres qui disent, non, moi, je joue les matchs qu'on me dit de dire, puis je sais pas ce qui se passe. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est quand même un gros tournoi. Ils ont fait des nouveaux, je sais pas si on en reparlera, là, mais des nouveaux terrains aussi, des nouveaux uniformes pour ces matchs-là. Quand personne comprend ton concept, il y a peut-être eu un manque de communication là, de ce côté-là. Là.
Ouais, personnellement, je trouve que ça a l'air dur à interpréter. C'est dur à comprendre, puis on le voit, même les joueurs, eux autres même, trouve ça flou ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on a essayé de faire un côté de marketing chez NBA, comme tu le dis. Ils ont carrément fait des maillots, des chandails, des shirts, des équipements en général pour toutes les équipes. Ils en ont un chacun, un nouvel équipement.
Ouais.
Donc, c'est un peu étrange. Puis, ben, surtout à une époque où on voit ça dans différents sports, notamment dans le soccer que je suis beaucoup. Mais c'est notamment le cas aussi chez NBA que les joueurs espéraient idéalement jouer moins de matchs. Et là, en ce moment, on est en train de leur en rajouter potentiellement. Donc, ça va faire un déséquilibre. Là, certains joueurs qui préféraient en avoir moins vont se retrouver à jouer plus, puis les équipes qui vont être moins bonnes lors du tournoi vont peut-être moins jouer de match, vont être plus reposées, donc éventuellement être meilleurs lors de la saison régulière et avoir des meilleures chances pour les playoffs et donc peut-être gagner le grand trophée, ce qui est l'objectif. Donc je sais pas, ça me semble un peu étrange comme concept.
Ouais, puis tu sais, juste que les joueurs comprennent pas tout, là tu vois qu'il y a un problème. Ouais, parce que tu sais, Charles, je t'en parle parce que je sais que t'as fait des articles avec Caléop et tout, mais tu sais, genre il y a des gars qui oui ils savent c'est quoi, mais il y en a d'autres que clairement ils savent pas, puis il y en a d'autres qui veulent juste attendre de voir comment ça va se dérouler, puis pour l'instant ils ont aucune opinion là, tu sais, c'est les joueurs, il y en a qui sont pleins à date parce que j'ai pas trop suivi. C'est sûr, j'ai regardé des matchs, tu sais, hier j'ai regardé un match, puis j'ai ben je sais pas si c'est toujours comme ça, mais mettons les Lakers, le court est tout jaune, tu sais,
ben,
je trouve ça quand même le fun. Je sais pas si c'est juste pour la NBA Cup ou c'est toujours
ouais,
de même,
c'est tout le temps pour le tournoi.
OK, fait que ça c'est quand même c'est hot à regarder, parce que sinon je me suis dit, hey, d'habitude quand je regarde game d'NBA, le gym il est pas de même.
Non,
mais,
c'est ça,
tu sais, je veux dire c'est différent, mais les joueurs, tu sais, sinon il y a l'engouement autour de ça, mais les joueurs trouvent ça comment?
Mais je lisais un article justement, tu sais, moi j'ai appris le concept du tournoi. Je veux pas sonner comme un complotiste là, mais j'ai fait mes recherches pour l'apprendre par moi-même là. Ça m'est pas venu comme ça là. Il a fallu que je creuse un peu pour comprendre. Mais je lisais un article d'un journaliste de TSN là, que j'oublie son nom, mais il était à la couverture des Raptors. Et les Raptors, c'est la dernière équipe qui a commencé son tournoi. Là, dans le fond, il y a des équipes qui avaient déjà joué trois matchs. Les Grizzlies étaient déjà mathématiquement éliminés du tournoi avant même que les Raptors jouent leur premier match. Fait que l'équipe de Toronto a eu le temps d'un peu de voir comment ça se déroulait avant de faire ses débuts. Il était là à la rencontre des joueurs pour avoir leurs impressions. C'était mitigé. C'était mitigé. Là, tu me demandes comment les joueurs trouvent ça. Justement, un gars comme Jakob Poeltl, qui est un vétéran, semblait pas trop vouloir jouer plus de matchs. Pascal Siakam se demandait sur la motivation que l'argent peut amener. Mais tu sais, lui, c'est un gars qui a un gros contrat. Leur nouveau Grady Dick, la recrue, lui, était super enthousiaste. L'argent, il va le prendre. Les matchs de plus, il était excité de compétitionner.
Il vient juste d'arriver, lui, là. C'est pas ça. Comme,
mais fait que tu voyais un peu la
y
différence.
Il n'y a pas de 12 saisons dans le corps.
Là, exact. Tu voyais un peu la différence d'enthousiasme selon l'âge des joueurs, leur statut. Dennis Schroeder, qui est un Allemand, lui comparaissait ça au soccer et trouvait que c'était une bonne idée. Donc c'est assez mitigé. Je pense qu'on va voir cette année, probablement qu'ils vont le refaire l'année prochaine. On va voir avec le temps si c'est un succès ou non. pour ce qui est des courts, là, des terrains différents, il y en a qui sont beaux. Celui-là des Lakers est beau.
Celui-là des Lakers, il est très frêle. Ouais. Eux.
Mais mettons, t'as celui-là des Bulls, c'est tout rouge. Leur chandail rouge aussi, t'as de la misère à voir. T'sais, c'est un coup de marketing. Il y en a qui c'est assez réussi. Il y en a d'autres, il y en a qui, non, là. Je sais pas ce que vous pensez d'un peu de faire des courts différents, mais.
Ben, je t'avoue que j'aime bien la couleur classique puis rester sur des terrains classiques, mais j'aime le petit cachet que ça donne. Ça fait un peu changement. Puis,
ça attire ton attention. T'as l'impression que tu regardes pas de quelque chose de normal.
C'est ça, ça fait changement. On a l'impression, ça donne un petit côté, pas arcade, mais tu vois, un petit côté différent. Puis moi, tu vois, le rouge, j'ai quand même bien aimé ça. Là. Fait que c'est discutable, c'est les goûts et les couleurs, là, mais personnellement, je trouve que ça fait changement. J'aime bien ça, mais au final, j'espère juste pas que ça devienne de quoi de permanent puis qu'on se retrouve toujours avec ces couleurs-là sur les terrains de basket.
Non, c'est sûr, ça doit être pour une occasion spéciale. Là, tu sais, hier, j'ai ouvert la télé, j'ai regardé la game des Lakers. Ben, tu sais, j'ai vu le terrain jaune, mais c'est sûr, il y a de quoi. C'est sûr que c'est la NBA, comme, genre, c'est pas une game saison régulière, parce que d'habitude, ça arrive pas. Fait que, tu sais, je savais qu'il y a comme un petit quelque chose, mais c'est sûr que, tu sais, ça intrigue, puis tu veux rechercher pourquoi le terrain est jaune, puis après ça, tu tombes sur le tournoi et tout. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est quand même hot, mais tu sais, comme on dit, de là à comparer ça au soccer, je pense pas. Je suis pas encore.
Il y a des différences encore quand même grandes.
Tu sais, je comprends le coup marketing et tout, mais dans NHL, dans MLB, peu importe, c'est juste une saison régulière, puis des séries, ça finit là. Genre, tu sais, maintenant, c'est bien beau essayer d'innover, mais tu sais, quand tu innoves, maintenant, il n'y a comme plus rien à faire. Je suis pas certain que c'est la bonne idée.
Ouais, c'est ça. On va voir les résultats. Là. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand monde de convaincus. La NBA, j'imagine, va attendre de voir les statistiques. Est-ce que ça a amené plus de monde? Est-ce que les joueurs ont aimé ça?
Ouais.
T'as regardé le match des Lakers hier. T'as pu voir LeBron James qui ne ralentit pas. 38 ans, continue de dominer la NBA.
Ben, écoute, il est si fort.
Ouais, je pense qu'il est plus efficace au lancer franc. Il s'améliore. On dirait qu'il continue de s'améliorer à 38 ans. C'est pas normal. Je sais même pas si on a déjà vu ça dans n'importe quel sport, là, tu sais. Oui, Messi a gagné une Coupe du Monde vers la fin de sa carrière, mais, tu sais, il joue maintenant en MLS, ça a été un passage à Paris un peu plus compliqué, là, d'être autant dominant aussi longtemps, c'est assez impressionnant.
Peut-être Djokovic. Ouais, peut-être la seule comparaison possible que je peux trouver, mais c'est vrai que LeBron, c'est quelque chose, là. Ça fait, j'avais genre 7 ans, puis il dominait tout le monde, tu sais, puis là, il domine encore tout le monde, donc c'est quand même spécial.
Ouais, puis si on va dans le soccer, j'ai beau avoir mon petit penchant pour Messi, on n'a pas le choix de nommer Cristiano quand on aime ces deux-là, surtout que Cristiano a 2 ans et demi de plus que Messi, donc lui est en train de dominer autour de 38 ans actuellement en ce moment, je sais plus s'il est à 37-38, mais bref, même s'il joue en Arabie Saoudite, il y a quand même certains clubs qui sont en train de se monter là-bas, puis il domine face aux gros comme les plus petits clubs là-bas, puis il est meilleur marqueur du championnat, puis il est en train de sortir une très bonne année en termes de meilleur buteur actuellement sur peu importe le championnat en Europe, ben, incluant l'Arabie Saoudite et les autres plus petits championnats, ben, il est, je pense, 3e meilleur buteur sur la saison. Donc, c'est quand même remarquable à son âge. Puis, ben, Messi, pareil, il a fait.
Non, c'est sûr qu'il y a d'autres exemples, effectivement, de longue carrière.
Ben, ouais, mais tu sais, à quel point, tu sais, pour venir au basket, à quel point, tu sais, le soccer, t'as tant que t'as quand même. Tu sais, oui, il y a peut-être un risque de blessure, mais c'est vrai que Ronaldo, Messi, il joue en pointe, les gars défendent pas, là. Mais tu sais, LeBron du terrain, il fait tout, puis je pense que les blessures au basket, c'est peut-être. Tu sais, je parle pour un attaquant de soccer, c'est rare que tu vois un attaquant de soccer blessé sur la touche pour longtemps, tandis qu'un défenseur est mieux, plus de contact, whatever, mais.
LeBron,
après moi, le basket, c'est intense, puis il défend, il attaque, puis tu sais,
il a presque jamais été blessé.
Son corps, c'est ça, son corps, il continue à suivre, là.
C'était un phénomène. D'ailleurs, les Lakers, par contre, même si LeBron est super bon cette année, le 6e dans l'Ouest, c'est pas pire, c'est pas, je pense que tant que t'as LeBron et Anthony Davis, tu vises le championnat. D'ailleurs, Jacob porte son chandail de la saison victorieuse des Lakers. Et malheureusement, je sais pas si on va les revoir gagner là, dans cette ère-là de LeBron et AD.
Je sais pas non plus, ça va être très compliqué, mais surtout que Anthony Davis est fait de vitre, malheureusement. Ouais. Il est vraiment. Mais tu vois, on parlait que LeBron James était remarquable ce qu'il faisait à 38 ans, qu'il était capable de capitaliser autant les efforts offensifs, défensifs, revenir sur le terrain. Ben, c'est parce qu'il y a un physique qui fait qu'il est solide. Il a presque pas eu de blessures dans sa carrière, puis ses blessures, c'est souvent des blessures à court terme.
Ça, c'est remarquable pour le vrai.
Ben oui, c'est. Puis en même temps, son hygiène de vie, il est pour beaucoup, mais il est aussi chanceux par la nature d'avoir cette force physique-là, de pas se blesser, puis à comparer d'Anthony Davis qui a beau tout faire puis qui est lui aussi un bourreau de l'entraînement qui s'entraîne comme pas possible, ben reste qu'au final il est malchanceux, puis que dès qu'il va faire un mauvais bond, un mauvais saut, ben il va avoir tendance à se virer une cheville puis une entorse, et là, ouais, c'est fini pendant 6 mois, 9 mois, puis saison terminée. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour les Lakers. Ça va être compliqué pour eux de remonter la pente et d'essayer de gagner un dernier championnat avec ces deux joueurs-là, mais on sait jamais, on sait jamais.
Ouais, écoute, on peut rester dans l'Ouest. Il y a deux équipes qui me surprennent un peu. Pas que je les attends, je pensais qu'elles allaient pas être bonnes, mais les Timberwolves sont premiers de la conférence et le Thunder d'OKC, troisième. C'est deux équipes jeunes quand même qui sont excitantes à regarder jouer. Je sais pas si tu as eu la chance de regarder un peu, ou qu'est-ce que tu penses de leur saison à date, Jacob?
OK, ils me surprennent. C'est une très bonne gestion qu'ils ont faite en ce moment, mais ils me surprennent. Je suis content de voir que l'équipe se porte autant bien. Son troisième, tu me dis, en ce moment?
Ouais, exact, la conférence de l'Ouest.
Ils me surprennent, mais vu le début de saison qu'ils font, je crois qu'ils peuvent aller encore plus haut puis encore mieux faire. Je serais pas surpris qu'ils aillent jusqu'à une deuxième position, voire même une première place. Bon, les Nuggets doivent être premiers actuellement.
Ils sont deuxièmes. Dans le fond,
Minnesota premier, Denver deuxième.
Exact.
OK, Minnesota me surprend peut-être encore plus. Je me suis pas tant penché, j'ai regardé un peu OKC, Minnesota, je dois avouer que j'ai pas beaucoup vu d'eux saison.
C'est des fiches similaires là. Dans le fond, Minnesota a joué un match de moins, donc ils ont une défaite de moins, mais 10 victoires, 3 défaites. OKC et Denver, 10 victoires, 4 défaites. Donc, mais comme tu dis, ces deux équipes, mais surtout OKC, là, des jeunes,
c'est des jeunes équipes, ouais.
On parlait avant d'entrer en onde, Chet Holmgren, très impressionnant là, presque, je pense. Ouais, au-dessus de 7 pieds, ou 7 pieds capable de tout faire là, sur le terrain.
Ouais,
c'est assez impressionnant. Dans une chaude lutte, d'ailleurs, avec Victor Wembanyama pour recrue de l'année.
7 pieds 4.
Ouais, exact, c'est ça. Puis qui mène non seulement les recrues dans plusieurs catégories, mais juste son équipe, les Spurs de San Antonio, dans plusieurs catégories. Félix, je pense qu'on peut le comparer, toi qui aimes beaucoup le hockey, là, c'est le Connor Bedard de la NBA.
Non, c'est ça, pas dans l'eau, là. Même si tu connais pas le basket, tu sais que ce gars-là, c'est un phénomène, puis tu regardes, il est tellement grand. Puis, t'essaies de trouver un défaut, t'es comme, il y en a pas.
Il y en a pas.
La seule, peut-être, défaut qu'il pourrait avoir, c'est qu'il est fragile, puis peut-être qu'il va se blesser à sa guerre, parce que tu un joueur de basket, ça se blesse, là, puis tu sais, je veux dire, il est pas fait fort, mais en tant que tel, tu sais, il lance bien, il fait des blocs, défensivement, il a une méchante portée, fait qu'il peut aller chercher n'importe quel ballon. Pourrait, j'essaie de trouver un défaut, je suis pas capable, je suis pas pour vous, boys.
Je pense que tu l'as pointé, là, son défi principal, ça va être de rester en santé, de se renforcer, un peu comme Giannis Antetokounmpo, qui est arrivé dans la NBA assez frêle, et il avait le potentiel, mais t'es pas très musclé, il est devenu un des joueurs les plus musclés de la NBA. Ouais. Je pense que ça va être un... Je sais pas si Wembanyama va devenir aussi musclé, mais ça va être ça, de prendre la force pour éviter les blessures. Ouais,
ça me semble compliqué quand même. Puis je pense que Wembanyama n'a pas une volonté non plus de devenir si musclé que ça. Quand on lui demande est-ce que tu penses à essayer de faire comme Giannis et de prendre un peu plus de poids parce que là, t'es un peu mince pour un joueur de ta taille et tout. Puis il répond, il est comme, je suis bon comme ça. Pourquoi bon devenir plus gros? Et évidemment que ça l'aiderait probablement à avoir une meilleure stabilité sur ses jambes.
Ouais, mais on regarde Kevin Durant,
Mais c'est ça, c'est
pas
ça,
super exactement. Musclé, quand même plus petit, mais tu sais, c'est quand même un des grands joueurs de la NBA aussi, là.
Kevin Durant fait quoi, 7 pieds à peu près?
Ouais, 6 pieds 11, quelque chose comme ça, là. Ouais.
Bref, ça joue à quelques pouces de différence avec Wembanyama. Donc, puis ils ont sensiblement le même frame physique, si je peux me permettre. Fait puis Durant s'en est très bien sorti dans la ligue. Il y a des qualités similaires à Antetokounmpo, à Victor Wembanyama plutôt. Ils ont des qualités très similaires. Les deux, c'est des très grands joueurs qui
avec
ont
des bonnes, un bon dribble, un bon tir.
Excellent dribble, excellente qualité de tir, puis en étant capable de fournir les efforts défensifs quand il faut. Des joueurs complets, un fan des deux, même si c'est deux générations différentes.
Exact. Avant d'aller à la pause, on va faire un petit tour dans l'Est. Boston qui continue sur sa bonne séquence et qui a fait des gros échanges à l'été. Ils sont allés chercher Porzingis et Jrue Holiday. Ensuite, les Bucks sont tout juste derrière eux. Ça a commencé un peu plus mollo. Eux autres qui ont fait l'échange de l'entre-saison. Là, ils sont allés chercher Damian Lillard. Et justement, ils se sont départis de Jrue Holiday. Selon toi, qui va avoir le dessus entre ces deux formations-là? C'est peut-être pas eux autres qui vont aller en finale de la NBA, mais je pense qu'ils vont quand même se livrer une chaude lutte au moins pendant la saison régulière là, pour le premier rang. Là.
J'irais très certainement avec les Celtics. Leurs échanges qu'ils ont fait pendant l'été, ils seront peut-être un peu moins flashy et tirent un peu moins l'attention que ce que les Bucks ont fait, parce que tu vas pas chercher une hyper grosse star comme Damian Lillard, mais aller chercher des autant bons joueurs défensifs, venir complémenter l'équipe avec Jaylen Brown puis Tatum, ça vient solidifier l'équipe. Puis les Celtics en ce moment semblent inarrêtables. Ils ont quoi, 3 défaites, c'est ça, je sais pas.
Ouais, exact.
3 défaites, mais c'est à se demander comment ils ont quand même 3 défaites. On pourrait quasiment croire qu'ils sont invincibles. Puis bref, je crois que cette équipe-là s'en va direction jusqu'à la finale. Je peux me tromper, évidemment, c'est le sport, mais je les vois très haut. Par contre, effectivement, les Bucks ont fait des bonnes transactions cet été, notamment avec Damian Lillard, qui est d'aller chercher une superstar comme ça, même si Damian Lillard dans la fin de sa carrière,
plus vieux, là, il commence à...
près de la fin du début, ben ça reste qu'en ce moment, à l'heure actuelle, c'est dans le top 3 des meilleurs tireurs de la NBA, puis c'est tout un joueur de basket, donc ça va venir certainement aider Giannis à potentiellement essayer de gagner championnat cette année.
Ouais, écoute, je pense que ça a renforcé l'attaque d'Emile Lillard, d'un des meilleurs joueurs offensifs de la NBA, là, sans aucun doute. Par contre, c'est leur défense qui faisait défaut, qui était une des meilleures de la ligue. Là, je pense que jusqu'à tout récemment, ils avaient la pire cote défensive là, de la NBA, donc un changement assez drastique. Ça semble s'être replacé, seulement 4 défaites, mais j'étais un peu d'accord avec toi. Je pense que quand ça va compter, quand le basket, le jeu va se resserrer, la défensive des Celtics va l'emporter. Là.
Ouais, mais idéalement, c'est sûr que pour les Bucks, avoir regardé Jrue Holiday, ça aurait pas été une mauvaise chose, mais bon, ils vont devoir faire ça.
Il n'y aurait pas eu Lillard sans départir de Holiday. C'est tout ce qu'on a à dire sur le basket. On va faire une petite pause. Au retour, on va parler de soccer européen. Vous écoutez Continent Sportif sur les ondes de Chiz 94.3.
On esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeons le monde pour Black Mayor. Appelle-moi la dégaine, c'est chaud.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Retransmis en direct des ruines de l'Empire britannique, je vous propose d'embarquer dans un voyage dans le temps à la rencontre des sonorités qui ont fait vibrer la jeunesse anglaise des années 60 à 90. Cool Britannia, c'est tous les jeudis de 10 à 11h sur Chiz 94.3 et c'est la seule émission où un Belge va vous parler pendant une heure d'Angleterre depuis le Québec.
Allô chérie, je m'en viens, à tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô chérie, je m'en viens, à tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en viens.
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Re-bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Continent Sportive. Écoute, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de soccer européen. Là, avec la blessure au haut du corps de... Non, bas du corps de Shannon. On a finalement l'occasion. En plus, on a Jacob avec nous qui me parlait tantôt pendant notre cours qui aimait le soccer. C'est mérité, sur le spot, une place à notre émission. On va commencer un peu avec la Ligue des champions. Selon vous, quels sont les clubs à surveiller cette année là, pour gagner les grands honneurs européens?
Ben, pour vrai, je vais commencer puis je vais dire que j'ai pas chaud avec Manchester City encore une fois. Mais je pense que c'est l'équipe favorite, mais là il reste juste à savoir si De Bruyne y revient, parce que je pense que si De Bruyne revient sur une équipe qui est complète, qui a une bonne, dans le sens qu'il va être en mesure d'aligner Premier League, la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions. Mais si De Bruyne revient pas, ben ça va être compliqué au niveau de la profondeur, parce que je pense que Julian Alvarez n'est peut-être pas prêt à jouer ce rôle-là de De Bruyne, puis il a pas le même impact que lui. Puis sinon, ben c'est sûr qu'il y a toujours le Real Madrid qui a surveillé, le Bayern cette saison. Je pense que c'est avec Harry Kane, je pense que ça peut être quelque chose d'impressionnant aussi. Mais encore une fois, je pense que pour le Real, les demi-finales, c'est sûr qu'on va avoir Real, Bayern puis Manchester City. L'autre équipe, je sais pas ça va être qui. Là.
Ok. Toi, Jacob, comment tu vois ça?
Ben, je t'avoue que j'ai sensiblement les mêmes favoris, évidemment, parce que c'est les équipes qui sortent du lot. Peut-être un peu moins le Real Madrid. Je veux dire, je veux bien que le Real Madrid, à chaque année, ça soit la surprise à la Ligue des Champions. On soit surpris malgré qu'ils gagnent très souvent. Ils sont déjà à quoi? 14 titres de Ligue des Champions. C'est
en tant que partisan de Barcelone, j'ai arrêté de compter.
Ouais, c'est triste un peu pour les autres. Mais effectivement, mais je pense pas que cette année, ça semble compliqué. Là. En plus, je sais pas s'il s'est blessé pour combien de temps.
Ils ont beaucoup de blessures aussi. Là.
Vinicius vient en plus de se blesser avec le Brésil. Brésil lors de la trêve internationale. Donc, et ça a l'air d'être une blessure à moyen terme. On parle de peut-être 2 mois de ce que j'ai compris. Donc, il va potentiellement manquer les prochaines échéances en Ligue des Champions. Donc, ça me semble compliqué pour le Real Madrid de le refaire cette année. Ils ont d'autres blessures. Donc, Courtois dans les buts. Je crois Rudiger en défense est blessé. Donc, une équipe quand même bien amochée. Mais par contre, moi, mes favoris du moment, c'est clairement le Bayern Munich. Le Bayern Munich, si on regarde leur équipe sur papier, ils n'ont pratiquement aucun défaut. On pourrait peut-être mentionner le poste d'arrière droit qui pourrait être un peu mieux, mais encore là, on repositionne souvent des joueurs comme Konrad Leimer à ce poste-là et qui fait plutôt bien. Sinon, on a dans les buts Manuel Neuer qui est un des meilleurs gardiens de l'histoire.
Ouais, une chance qu'il est revenu parce qu'il y a eu le Rey que c'était pas ça.
Mais par contre, il y a plusieurs connaisseurs et suiveurs de la Bundesliga qui émettent certaines réserves depuis son retour sur Manuel Neuer. On dit notamment que parfois, il a l'air un peu moins serein lors de ses relances. Donc, ça reste à voir. On l'a pas beaucoup vu sur la scène internationale en Ligue des Champions dernièrement.
Ouais, il était blessé longtemps.
Il était blessé très longtemps. Mais si ça revient, le Manuel Neuer qu'on a tout le temps connu, évidemment, ça va être une grosse upgrade, une bonne amélioration sur Sven Ulreich. Donc, puis sinon, Harry Kane, quel joueur phénoménal. J'ai tout le temps été un grand fan de lui, mais malheureusement, il était pris dans une équipe de Tottenham qui était en bas de son niveau à lui.
Ah, c'est lui qui les a menés. C'est la seule raison pourquoi Tottenham a existé un peu pendant ces années-là, c'est Harry Kane.
Ben oui, puis là, ben c'est un malheureux hasard pour Harry Kane, mais on fait venir Ange Postecoglou à la tête de Tottenham cet été en tant qu'entraîneur. Il vient en provenance du Celtics en Écosse, et puis il fait des miracles avec cette équipe de Tottenham qui ont pourtant pas fait d'énormes reculs. Ils sont allés chercher James Maddison, notamment un bon milieu offensif qui est en train de dynamiser un peu cette attaque. Mais sinon, au final, c'est presque la même équipe de Tottenham avec pourtant son meilleur joueur, son meilleur buteur en moins, et elle se débrouille quand même, elle fait des miracles en ce moment. Je crois qu'elle frôle le top 4 de Première Ligue.
Ouais, quatrième, mais ils ont été le premier longtemps.
Ouais, c'est alors, ça, exact, à cause des blessures les a tués, là. T'sais, c'est ça, il y a un peu qui arrive. Oui, ils n'ont pas Ligue des Champions, fait qu'ils ont une game par semaine, mais c'était une équipe qui était fragile, là. Puis ici, Maddison, Son se blessait, les deux, ils étaient comme proches, ils sortaient à la 60e minute pour les reposer. Maddison a été blessé, ça a été mort. Van de Ven en défense qui était, le gars, il court tellement vite, c'était
ça
le défenseur.
Ça a transformé la défense.
C'était
de
le
Tottenham,
défenseur Tottenham. Ouais, en plus, il jouait avec un bloc haut. Fait que Matt Deven, il rattrape toujours aux attaquants, là, il s'est blessé. Fait que là, t'étais comme à 2 blessures proches de comme avoir de la misère. Puis là, ben, ces blessures-là, c'est arrivé. Puis t'as affronté Chelsea. Puis récemment, il a affronté Wolves, qui est quand même une équipe en forme. Fait que c'est sûr que ça leur a fait mal, mais je pense qu'ils vont quand même se qualifier avec des champions, c'est sûr. Le cas, tu joues pas de compétition européenne, mais assurément, t'es une bonne équipe, tu fais pas la Ligue des Champions. Ça ressemble un peu à ça, comme Newcastle l'année dernière. Puis Liverpool cette année qui joue en Europa League, donc c'est sûr qu'ils font la Ligue des Champions aussi. Là.
Mais en même temps, j'espère pour eux que les blessures, ça va pas continuer, parce que s'ils continuent de jouer avec un effectif réduit, on a vu le Tottenham des dernières années, ils ont pas souvent.
Non, c'est ça, ils ont pas de bain.
C'est ça qui fait la différence entre Tottenham puis des équipes comme Manchester City,
la profondeur.
Leur banc serait une des meilleures équipes de la Première Ligue.
Ben oui.
Tottenham, par contre, c'est un peu dommage, les blessures, parce qu'ils m'impressionnaient vraiment beaucoup. Leur entraîneur, là, Jacob, t'en as parlé, a complètement transformé l'équipe, a amené un vent de renouveau. Je voyais beaucoup de commentaires, mettons, sur Internet, puis tu sais, ça, c'est à prendre et à laisser, là, mais des partisans d'Arsenal ou tu sais, des clubs rivaux qui disaient « Ah, je les déteste, mais lui, il est dur à pas aimer, ou tu sais, j'aime pas qu'il soit aussi sympathique. » Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de lui, mais moi, je pense qu'il est en train un peu de faire sa place parmi les Pep Guardiola ou les Jürgen Klopp là, de la Première Ligue, là.
C'est peut-être un peu rapide pour parler, si on parle du coach de Tottenham, bien encore une fois, d'Ange Postecoglou, c'est peut-être un peu rapide avant de donner des tels éloges, mais effectivement, en ce moment, il est en train de créer un très beau projet avec Tottenham, puis c'est en train de devenir une bonne équipe, ce qui n'a pas été le cas lors des dernières années où il y avait de la difficulté à accrocher des places européennes. Par contre, un qu'on pourrait tranquillement pas vite mettre sur ce piédestal-là, c'est Mikel Arteta à Arsenal, qui a fait un travail phénoménal, malgré qu'il y a eu une première année et demie, je dirais à peu près, très difficile, qu'il était tout le temps sur la sellette, on menaçait de le renvoyer quotidiennement, mais il a réussi à sortir de cette passe-là, puis il a continué de développer son jeu avec son équipe, puis il a la touche guardiolienne, il était assistant de Guardiola à Manchester City, puis notamment il a joué à Arsenal par le passé sous les ordres d'Arsène Wenger, qui avait aussi un style de jeu, bien qu'il n'est pas catalan, mais qui avait ce style de jeu-là un peu dans ses équipes d'Arsenal, puis on retrouve ça à Arsenal en ce moment, puis je pense qu'Arteta le fait très bien. Puis d'ailleurs, Arsenal a lutté pour la première place en Première Ligue la saison dernière. Et
ils sont encore dans la lutte là, cette année.
Ben oui. Puis ils viennent d'accrocher une place en Ligue des Champions. Ils font plutôt bien. Je crois qu'ils ont juste une seule défaite.
Ils sont premiers de leur groupe.
Une défaite contre Lens, si je me trompe pas.
Ouais,
3 victoires, 1 défaite. avec un groupe somme toute quand même facile, ben pas facile, mais tu sais,
ouais, t'es content de piger sur les groupes là avec des champions.
Ouais, c'est
là.
Ça, ouais, c'est pas, ça. Y a pas grand menace, mais tu sais, les matchs, faut que tu t'es les gagnes.
Faut que tu prennes au sérieux comme tous les matchs avec des champions. Ça
fait qu'ils font bien à date, font bien en première ligue aussi, donc non.
C'est un groupe équilibré. C'est un groupe équilibré. Les équipes, c'est vrai que t'es content de tomber.
La deuxième équipe, tout le monde peut passer, mais Arsenal, tu
savais qu'elle est le premier. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un bon groupe pour Arsenal, mais les autres équipes, je regarde ça.
PSV, Lens et Séville.
Séville, ben je veux dire, c'est.
Séville, on sait qu'ils vont retourner en Europa League tout à l'heure. Ils vont juste gagner l'Europa League.
Ouais. Non, c'est ça. C'est des habitudes de l'Europa League. Ils finissent tout le temps par gagner cette compétition. C'est pas trop pourquoi, mais bon, ils réussissent à s'en sortir là-dedans. Alors qu'en Ligue des Champions, c'est tout le temps un peu plus compliqué. Sinon, on a Lens qui sont sortis cette année. C'est un peu plus difficile. Ils commencent à revenir au classement en Ligue 1 dans le championnat français. Ils commencent à être en milieu de tableau en ce moment, autour de la 9e place, si je fais pas d'erreur. Mais en Ligue des Champions, ils sont quand même, ils s'en sont pas si mal sortis. Je pense qu'ils sont 3e en ce moment. Mais ils pourraient revenir à la 2e place et prendre une place qualificative. Ça serait beau pour le football français. Puis sinon, le PSV, ben, c'est une équipe qui propose du très beau jeu aux Pays-Bas. Je crois qu'ils. Je sais pas si ils sont premiers ou deuxièmes en ce moment dans le championnat là-bas, mais je sais que l'Ajax, ça va pas trop bien. Eux, qu'eux autres continuent de proposer du beau jeu. Donc
ouais.
C'est ça. Si on peut parler aussi, on parlait que c'était un groupe si compliqué, mettons, pour Arsenal. On peut parler aussi du groupe F, là, le groupe de la mort avec ouais. Dortmund, Paris Saint-Germain, AC Milan et Newcastle. Newcastle qui avait offert du beau jeu justement l'année dernière avec en Première Ligue. Plus difficile là, dans ce groupe-là. J'ai hâte de voir. C'est encore ouvert un peu pour tout le monde. Je sais pas qui vous pensez. T'sais, Dortmund, 2 victoires, une défaite. PSG, 2 victoires, 2 défaites. Ils ont quand même une longueur d'avance. Je sais pas si eux autres qui vont passer là au final. Là.
Moi, je pense que PSG va passer. Puis Newcastle, ça va être trop compliqué. Parce que je suis absolument sûr Newcastle, en dehors, a bien fait ça. Mais c'est un peu... C'est justement, moi, je suis vraiment... Tu sais, en Premier League, c'est la ligue qui draine le plus les joueurs. Parce que tous les matchs, tu sais jamais si tu vas gagner d'avance. Puis ben Newcastle, malheureusement, ils sont pas allés chercher assez de joueurs, justement, au Mercato pour renforcer ces joueurs-là. Puis pour amener la profondeur à l'équipe. Fait que quand tu joues Premier League et Ligue des Champions, c'est dur de combiner. Puis là, ben, toute la malchance s'acharne sur eux. Là, ils perdent Harvey Barnes, ils perdent Isaac, puis probablement Wilson sont blessés. Les deux vont peut-être revenir, mais en tout cas, ça reste qu'ils perdent leurs deux attaquants. Derrière, t'as perdu Botman, Burn qui est à défense. T'as la Ligue qui s'est fait suspendre pour Paris Sportif. Fait que, tu continues avec tout ça, t'as des matchs de Premier League à jouer, tu joues Arsenal, tu joues des grosses équipes. Même quand tu joues une équipe de bas de tableau comme Burnley, peu importe, ça reste que ce match, il faut que tu prennes au sérieux. Puis en milieu de semaine, tu joues PSG, Dortmund et tout, c'est bien trop compliqué. Fait que, puis PSG comme, est bien placé dans le groupe, là, malgré que PSG gagne pas à l'extérieur. Mais ça reste que PSG va probablement se qualifier parce qu'en Ligue 1, ben, tu peux reposer l'équipe puis tu peux mettre Mbappé sur le banc, faire rentrer à mi-temps, peu importe. Puis tu sais, t'as quand même une bonne attaque. Fait que ça reste que quand ils vont arriver en Ligue des Champions, ben, ils vont l'emporter. Puis je pense que le tirage est favorable pour eux. Après ça, l'assimilage, je pense pas que ça. Moi, je pense que c'est Dortmund puis PSG qui passent, mais dans l'ordre, je pourrais pas exactement dire parce que ce groupe-là est tellement difficile à prédire que c'est ça, là.
Ouais, je pense qu'on a pas rarement vu, là, mais c'est un des bons groupes là, serrés avec des bons clubs de Rome qu'on a vu dans les dernières années.
Mais pour Paris, il faut aussi mentionner la blessure de Warren Zaïre-Emery qui serait blessé ouais. à très long terme. Donc mais ça peut venir mettre une grosse épine dans mais malgré que l'équipe parisienne.
C'est vrai que c'est plate pour Warren Zaïre-Emery parce qu'il est jeune, mais je trouve que justement le milieu de terrain du PSG, genre il est trop fragile. T'as Ugarte qui récupère toutes les balles et tout, mais genre au pied, c'est compliqué. Puis Zaïre-Emery, c'est le contraire. Il est super bon techniquement, mais comme défensivement, il a un peu de difficulté. Puis on dirait que Paris a comme tellement attaqué, genre que c'est difficile de faire la relance entre la défense et l'attaque parce que des fois, contre Newcastle, au St. James Park, on a joué à 4 attaquants. Mais on n'était pas capable de sortir de défense parce que Marquinhos disait qu'il avait la balle, il voulait chercher Zaïre-Emery ou Ugarte, mais les deux étaient pas là puis étaient coincés parce que Newcastle les étouffait avec 3 milieux. Fait que c'est rien de trouver un ajustement. Puis c'est un peu toujours ça à Paris. Genre, on dirait que la relance se fait pas bien entre le milieu puis l'attaque dans les matchs importants puis les gros matchs avec des champions parce que, genre, tu sais, le milieu, Fabien Ruiz, c'est pas un joueur de ouais. Oui, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Carlos Soler non plus. Ça prend un milieu comme, tu sais, un gars comme Modric, un gars comme Bellingham, des gars de même, genre Valverde, des gros joueurs que tu sais qui défensivement et offensivement font la job. Puis Zaïre-Emery, oui, il va être super bon, là, mais pour l'instant, c'est pas encore ce joueur, là. Même chose pour Ugarte.
Il y a aussi le fait que Zaïre-Emery est jeune, puis qu'il n'y a pas le volume de jeu d'un ouais. des joueurs que t'as nommé.
Mais éventuellement, il va l'avoir, ça, c'est sûr.
On l'espère, parce que pour vrai, il y a d'énormément de belles qualités, puis on espère qu'il va utiliser tout son potentiel.
7 ans, je pense, hein.
le jeu. Ben oui, ben
ah,
oui.
Pour de vrai, il y a tellement.
C'est tout un joueur.
Il y a du leadership. En plus, je sais pas si vous avez vu, là, il a pris le micro ouais. justement, puis il est allé parler aux Ultras. Il a fait ça la dernière, là, je veux dire, il a peut-être même 16 ans. Là,
ouais.
C'est vraiment un gars
c'est
qui.
C'est assez prometteur là,
ouais,
pour le PSG.
C'est un, genre, ça va être un Bellingham, ce gars-là.
Mais ouais, puis c'est assez. Ouais, vas-y, non.
Excuse, mais non, mais non, vas-y. Ce qui aide pas dans son développement à Zaire Emery, c'est que parfois, à Paris, ils ont de la misère. Pourtant, ils sont supposés avoir un jeu super niché de possession, mais ils changent beaucoup leur composition. Parfois, ils passent d'un genre de 4-4-2, donc avec seulement deux milieux carrément central, alors que des fois, ils vont sur un 4-3-3 avec trois milieux. Donc, quand ils jouent à trois milieux, ça permet d'avoir un des milieux qui est un peu plus reculé, donc un numéro 6 et un milieu, donc souvent, ça va être Ugarte qui va venir récupérer les ballons, et ça permet d'avoir Zaire Emery, quelqu'un avec lui pour l'appuyer et couvrir un peu plus de place au milieu. Alors, quand tu me mentionnais la défaite contre Newcastle, ben, on jouait sur un genre de 4-4-2 avec quatre attaquants, puis qui était tout seul au milieu avec Ugarte, donc Ugarte ne pouvait pas tout faire, puis Zaire Emery se retrouvait
se faisait manger. C'est pas nécessairement de la faute des deux joueurs, c'est juste que c'était comme c'était parti pour c'est sûr que ça allait foirer, genre ouais. Les gars étaient mal placés, puis c'est là un peu que Verratti dans le tank était bon là, c'est là qu'il manque, genre tu sais Verratti dans le tank c'était vraiment un bon joueur, mais il récupérait les ballons, faisait les gros tacs, faisait les gros jeux pour permettre à Paris de ramener la balle en avant, puis là quand tu as une occasion avec Mbappé qui arrive en contrôle, ben là tu ris dans ta barbe parce que tu sais qu'ils vont avoir une action ou Colomboigny peu importe, mais tu sais c'est cette transition là qu'il faut qu'il fasse, puis même avec Messi tu sais je trouve que ça se faisait pas très bien non plus. Messi des fois il venait chercher la balle plus bas, mais quand il le faisait pas, ben la balle elle arrivait pas trop souvent à lui, fait que je trouvais que c'est une équipe de compte le PSG plus qu'une équipe de possession comme on a toujours vu, mais en Ligue 1 c'est sûr que ça va bien, tu joues contre Brest puis des équipes comme ça, fait que c'est sûr que t'as toujours la balle puis tu parais pas bon, mais quand t'arrives dans des gros matchs là, puis à St James Park c'est une domination totale, on l'a vu le PSG, ça va être Burnley là.
Si je me trompe pas, c'était le premier match de Newcastle en compétition européenne depuis super longtemps, ou en tout cas c'était Ligue des Champions.
Ouais, c'était le deuxième à St James Park parce qu'il avait joué à Milan auparavant, je pense.
OK, mais tu voyais la passion des joueurs.
Milan c'était à San Siro, ouais, c'est ça.
Ils viennent de jouer deux fois Milan. Le premier match contre Milan, c'était à domicile.
Ouais, c'est ça, c'est leur deuxième match à St James Park contre le PSG. Ouais, c'est ça, t'as raison.
Ils sentaient la passion, les joueurs célébraient, ils faisaient un tac, la balle sortait, ils célébraient avec les partisants comme s'ils venaient de marquer. Je pense que le PSG était pas prêt.
Ouais, c'est quelque chose à jouer en Angleterre, puis ils l'ont vu, puis fallait être surpris défensivement parce que Donnarumma passait Marquinhos, t'avais Wilson, t'avais Barnes, t'avais pas Everbuns, t'avais Gordon, les deux étaient là, puis ça pressait, puis t'étais vraiment enfermé, puis les partisans criaient comme des malades. T'étais juste pas prêt. C'est pour ça que je trouve que c'est remarquable que Newcastle soit rendu là, mais ça reste que quand tu joues contre Newcastle, tu vas chercher des points, ça c'est bon, là, parce que je trouve que St. James Park, là, t'arrives là, puis t'es un peu... C'est une forteresse, là, comparé à Old Trafford, Old Trafford, c'est plus ce que c'était, là, St. James Park.
C'est vraiment le théâtre des rêves.
Non, c'est ça, ça s'en vient. Puis même Arsenal, tu vas jouer là, c'est compliqué, là.
Ouais, mais on parlait du PSG, du milieu de terrain, honnêtement, c'est ce que je dis depuis plusieurs années, là. Puis même dans le temps de Verratti, oui, il était excellent, mais je pense qu'il était pas super entouré, tu sais, dans les matchs européens importants, là. C'était quoi, s'il y avait de la misère à passer le huitième ou le quart de finale pendant un bon bout. Ça a toujours été une faiblesse pour le PSG, puis t'as beau mettre autant d'argent que tu veux en attaque, le soccer, ça passe par le milieu. On le voit à Manchester City avec leur succès, là, avec un De Bruyne. Je pense pas que PSG, j'y crois pas tant que ça là cette année. Oui, ils ont un jeune de 17 ans qui risque d'être exceptionnel, mais on parlait que c'était peut-être un futur Bellingham. Ça l'est pas tout de suite. D'ailleurs, Bellingham, t'en as parlé, Jacob, tantôt. Moi, il m'impressionne pas parce que je savais pas qu'il était pas bon. Je l'avais vu, je n'avais entendu parler en Allemagne, je l'avais vu à la Coupe du Monde, mais je pensais pas qu'il allait marquer autant de buts. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous surprend, vous, les gars.
Ça me surprend, moi, le premier, qui a tout le temps été un énorme fan de Bellingham. Depuis Dortmund, surtout, parce que c'est là que j'ai commencé à le regarder jouer pour de vrai. Mais c'est son positionnement sur le terrain. Le Real Madrid se retrouve dans une position où tu perds Benzema cet été et que tu veux pas réinvestir d'argent quand tu considères que tu vas être potentiellement capable de signer Mbappé l'été prochain. Donc, pourquoi mettre 150 millions, 200 millions sur un attaquant là si tu peux signer Mbappé gratuitement, même si ça va coûter des primes à la signature et un énorme salaire?
Ouais.
Si tu peux approcher Mbappé l'été prochain, pourquoi acheter un attaquant là? Donc, il se retrouve qu'ils vont simplement aller chercher José Lu qui va à peu près rien leur coûter.
Non, c'est ça. Puis José Lu, c'est juste là pour dépendre de la Danelle.
C'est un remplaçant, c'est un attaquant expérimenté. Il doit avoir 29, 30 ans, peut-être même un peu plus vieux, mais qui fait le travail, mais contre des petites équipes de Liga, des petites équipes de leur championnat espagnol. Mais lors des grands matchs, ils se retrouvent qu'ils ont une pénurie en attaque, ils ont pas de numéro 9, ils ont personne.
Ben, c'est ça, puis Bellingham joue même pas en 9, il joue en faux 9, il joue un peu derrière. Ouais, là, oui, il joue haut sur le terrain, mais il a pas la position de buteur typique. réussi à enfiler les buts comme si c'était Lewandowski ou Benzema ou tu sais les Luis Suarez. Bon, peut-être pas au même rythme là, mais quand
ben,
même.
Pour vrai, c'est impressionnant là. Je pensais pas que Bellingham allait être le meilleur marqueur du Real Madrid là.
Mais Bellingham, il a toujours une bonne qualité de frappe, puis je sais plus c'est quoi la stat, mais je sais que presque tous ses buts sont en dehors de la surface de réparation. Contrairement à le cyborg Erling Haaland qui lui a marqué je pense il y a 2-3 semaines juste avant la trêve internationale, marqué son premier but de l'année, je crois, en dehors de la surface de réparation parce que ouais. Tous ses buts c'est des buts dans la surface de réparation, ouais. Qui fait des petites déviations, des têtes, bon en tout cas des même des frappes, mais peu importe, mais des buts très près du but à comparer de Bellingham qui a une bonne puissance de frappe et qui va trouver des éclairs de génie. Qui
ouais, mais pour de vrai, ce gars-là, il a tout. Genre, la vision du jeu, il va tous ses coéquipiers sur le terrain. Le sens du but, ça s'apprend pas. Là. Un gars comme Lewandowski, Harry Kane, tu lui donnes une balle, tu sais qu'il va mettre au fond, même à Haaland. Puis Bellingham, il l'a, puis il est tellement jeune. Pour de vrai, genre, Birmingham, c'est ça, ils ont retiré son
maillot. Son maillot. Parce qu'avec la vente de ce gars-là, ils ont, avec l'argent qu'ils ont eu de la vente, ils ont pu sauver le club. Puis
ouais, c'est ça.
Le club est encore en vie à cause de cette vente-là.
Mais ça reste qu'ils ont vu quelque chose. Tout le monde a vu quelque chose sur Bellingham très jeune. Puis là, ça fait juste tout le monde est en train de voir que Bellingham, c'est un méchant joueur. Puis pour de vrai, des fois, c'est même... Tu sais, des fois, c'est des buts chanceux, mais il est toujours à la bonne place au moment. Mais comme un peu Haaland. Tu sais, Haaland, oui, il marque dans la surface de réparation. Oui, c'est des tapines. On va dire, Haaland, il a mis tant de buts. Mais la dette, il y en a genre 30 qui sont des tapines. Mais se placer pour mettre la balle au fond du filet, pour mettre le tapine, ça, c'est quand même... Tu sais, c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Puis l'exemple parfait, c'est qu'il y avait à City, t'avais Jesus, t'avais Aguero. Puis tous ces gars-là ont jamais amené de Ligue des Champions à Manchester City. Puis en plus, ben, il n'y avait pas les mêmes statistiques qu'Haaland. Fait qu'Haaland, oui, certains de ses buts, c'est pas les buts que Ronaldo Messi faisait. Mais ça reste qu'il se passe tellement bien pour la mettre au fond du filet. Puis ce gars-là a une très bonne finition. Là, je veux dire, comme Harry Kane, ça reste que c'est une des meilleures finitions que j'ai vues depuis un méchant bout. Mais tu sais, pour parler de ça, ça reste que je pense que tu mettais Harry Kane à la place d'Haaland, il ferait autant bien qu'Haaland.
Ouais, puis pour revenir à Bellingham, tu mentionnais son intelligence, mais puis ils vont faire une liaison avec Harry Kane. C'est deux joueurs qui ont des profils, en gros guillemets, similaires. Il y en a un qui c'est un pur numéro 9, un pur buteur, puis l'autre c'est un milieu de terrain à la base, plus un 8. Mais reste que c'est deux joueurs qui ont un sens du but très développé, qui ont un sens du jeu très développé, des qualités techniques pas d'un niveau de Neymar à faire des skills de gauche à droite.
Ben, mais tous les gestes techniques de base, genre contrôler une balle, c'est tout parfait. Jamais son Bellingham rater une touche de balle, ou jamais il va perdre la balle à cause qu'il a fait 4 touches de balle.
Ouais, ben,
il va donner le ballon à Ben.
Fait que c'est de ce sens-là, ces deux joueurs-là se ressemblent énormément. Puis là, en plus, Bellingham, il est monté un peu plus sur le terrain, il est rendu un genre de 10,5-9, en tout cas, bref. Puis, puis pourtant, les deux joueurs sont super complémentaires avec l'Angleterre. À chaque trêve internationale, lorsque les deux jouent ensemble, la chimie est parfaite. Donc, tu vois que des joueurs intelligents qui sont capables de s'adapter, ben, ça peut forcément que faire des bonnes choses.
Ouais, on va s'en refaire une autre émission pour l'approche de l'Euro, là.
Ah oui, c'est sûr, pas le choix.
On va reparler de soccer. J'aimerais qu'on parle, tu sais, on a parlé d'Haaland. Ça a été la remise du Ballon d'Or, là, dernièrement. Est-ce que je sais qu'ici, autour de la table, on est pas mal tous des grands partisans des admirateurs de Messi. Est-ce que selon vous, il méritait son 8e Ballon d'Or, là? 8 ou 9? 7? Je pense que c'est 8.
C'est 8e.
Mais Sam, il était déjà à 7.
Ça se peut.
Il y en a tellement, on a l'air à compter.
Faudrait que ça...
Il y en a tellement volé dans l'espoir. Je pense pas ça.
Pour le vrai, il y en a volé... J'ai envie de dire un, parce qu'il y en a un que Lewandowski le méritait. Le dernier, c'est parce qu'il aurait comme dû avoir deux ballons d'or. Un pour Messi, un pour Haaland. Je sais pas si, c'est là que je sais pas s'il a volé le dernier.
On pourrait débattre très longtemps sur ce sujet-là. Tant qu'à moi, c'est pas des ballons d'or. C'est souvent, les gens ont tendance à parler d'un vol de ballons d'or. Puis c'est là que j'ai un peu de la difficulté. Parce que souvent, c'est des années où ce que Messi le méritait. Puis quand on dit que Messi le mérite, ça veut pas dire que tel autre joueur, en l'occurrence, on parle souvent de Van Dijk, de Lewandowski, de Haaland, c'est les trois ballons d'or qu'on dit souvent que Messi
a
volé.
Ribéry aussi,
Ribéry, c'est Cristiano qui l'aurait volé.
Ouais, c'est ça, mec.
Ouais, mais dans le sens que, tu sais, Ribéry aurait pu ça.
Ouais, il aurait pu gagner.
Il aurait dû le mériter, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire.
Oui, Iniesta en 2010 avec Messi, mais sinon, mettons, on reprend chaque année et tout, puis c'est, faut aussi regarder les chiffres. Il y a des gens qui pensent que c'est juste les trophées, le ballon d'or. Tel joueur a gagné tel trophée. Il doit gagner le Ballon d'Or, mais qu'à côté de Messi qui a fait une saison à 70 buts puis 30 passes décisives, tu donnes à qui là, le joueur qui a fait 10 buts, 10 passes D, mais qui a gagné tous les trophées, ou le joueur qui a fait une année qui sous-entend l'existence humaine qui a aucun sens? Donc, tant qu'à moi, on parle pas nécessairement de vol. C'est dur à dire.
J'étais un peu d'accord avec la solution à Félix. Là. Un, ben, qui l'a peut-être un peu copié de Pep Guardiola, là, mais un pour Haaland, un pour Messi. Mais je pense que les deux le méritaient. Puis c'est un peu difficile à évaluer qu'est-ce qui vaut plus. Une Coupe du Monde, ça vaut beaucoup. Alan qui fait le treble avec Manchester City, qui marque des buts comme jamais. Moi, j'ai quand même... Tu sais, c'est peut-être court, là, c'est sur une petite période de temps, mais j'ai vraiment été impressionné par le leadership que Messi a démontré à la Coupe du Monde en fin de carrière, le plus gros tournoi au monde, de réussir à aller gagner ça à sa dernière... probablement sa dernière chance. Si ça mérite pas un ballon d'or, là, je sais pas qu'est-ce qui en mérite un.
C'est surtout que le phénomène, c'est bon aussi, c'est que les dernières Coupes du Monde, on a eu des équipes gagnantes qui avaient pas un joueur en particulier qui sortait énormément du lot. Donc ça
on
fait
donnait le ballon d'or pareil, parce que, tu sais, Modric qui a gagné le ballon d'or, là, c'est à cause de la Croatie, là, tu sais. Même s'ils l'ont pas gagné,
c'est un peu
à cause de ça, là.
Oui, clairement. La Coupe du Monde a tout le temps donné énormément
de crédit. Ils perdent encore de finale. Modric, il l'a pas le ballon d'or, là.
Non, c'est sûr.
Mais, tu sais, c'est ça. En 2018, la Croatie, c'est parce qu'il a fait finale, puis c'est ça qui donne les crédits à Modric. Mais Modric, en parallèle, il a aussi gagné la Ligue des Champions, puis c'est pour ça. Puis, t'as regardé les joueurs français, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'année. Les trois candidats qui sortaient du lot, c'était Varane qui avait gagné la Ligue des Champions aussi avec le Real Madrid. Mais Varane, c'est un défenseur central qui a sorti du lot pendant la Coupe du Monde avec la France, mais avec le Real Madrid, il était plus dans l'ombre de Ramos. Puis, t'avais aussi Mbappé, mais il était encore jeune, il était en train de sortir du lot. C'était dur. Il était meilleur jeune joueur de la compétition en Coupe du Monde, mais dur de donner le ballon d'or sur cette année-là, puis Griezmann, mais Griezmann qui sort en phase de groupe de Ligue des Champions, et certes, il gagne l'Europa League dans la foulée, mais l'Europa League, ça vaut pas la Ligue des Champions, donc bref, il y avait personne qui sortait du lot dans l'équipe de France, puis t'as une petite équipe comme la Croatie qui est sortie du lot, qui est allée en finale de Coupe du Monde.
Donc... Un peu comme Messi, une performance de leader là, exceptionnelle de Modric.
Ah ouais, puis pour elle, il a fait une grosse Coupe du Monde, Modric. Là,
moi, j'avais été impressionné, j'avais regardé.
Il a eu un bon but contre l'Argentine, justement, en phase de poule. But important, il avait taffé le milieu là, donc.
Mais j'avais regardé la demi-finale, je crois, de la Croatie quand ça s'était rendu au penalty. J'étais dans la salle de pause du métro de Place Sainte-Foy. J'ai tiré un peu mon chiffre. Ma pause était finie, mais je continue de regarder. Puis Modric, deuxième période de prolongation, c'était taper un sprint pour aller chercher une balle au corner, tu sais, offensif. Le gars avait déjà approché, tu sais, était fin trentaine. C'est un long tournoi à la Coupe du Monde. Deuxième période de prolongation, mais ça donnait corps et âme pour sa nation. Je trouve ça impressionnant, des gars qui réussissent à être au meilleur sur le plus grand stage. Donc personnellement, je pense que Messi, là, comme Modric, les deux le méritaient. Là. Même si les autres ont été excellents, je pense que ça mérite d'être reconnu.
Je sais pas si nous reste un peu de temps, là, mais...
Ouais, un petit peu, oui, vas-y.
Mais si je peux aller en rafale rapidement sur les derniers gagnants de Coupe du Monde et les années de Ballon d'Or. Tu sais, on remonte en 98, la France gagne la Coupe du Monde, Zidane et Ballon d'Or, en ayant apporté la France 2 buts en finale. On s'en va en 2002, le Brésil gagne la Coupe du Monde. Je pense que c'était la Coupe du Monde était en Corée du Sud et au Japon. Puis en tout cas, le Brésil gagne en finale. Ronaldo Nazario, qui était le joueur qui a porté le Brésil, gagne le Ballon d'Or. On s'en va en 2006, l'Italie gagne la Coupe du Monde contre la France en finale. Cannavaro, qui est leur défenseur, leur capitaine, gagne le Ballon d'Or cette année-là. Puis c'est après, tu t'arrives en 2010, t'as une équipe d'Espagne qui joue sans buteur, qui joue avec 6 milieux de terrain dans leur équipe. Il y a personne qui sort énormément du lot. Certes, Iniesta peut-être, mais t'avais pas un joueur en particulier qui sortait du lot. Puis en parallèle, t'as le Messi, comme je disais tantôt, des saisons stratosphériques.
Ah,
à côté.
C'est vrai, juste pas
donc, il est venu gagner le Ballon d'Or. Puis après, en 2014, l'Allemagne, c'était un peu le même concept. Il y avait un buteur en Miroslav Klose, mais par contre, ça reste un gros collectif. Je pense que Neuer finit 3e du classement Ballon d'Or en 2014.
Ouais, je pense que
mais pas une grosse individualité qui sort du haut, puis Cristiano avait fait une super année cette année-là, donc Cristiano gagne son Ballon d'Or, puis 2018, ben là on arrive sur la performance de Modric, donc je pense que c'est juste la force naturelle des choses qui fait que la Coupe du Monde a beaucoup d'importance sur le vote du Ballon d'Or, et c'est pour ça en grande partie que Messi, puis en plus Messi avec son nom, on sait que quand c'est une énorme année de Messi ou une énorme année de Cristiano Ronaldo, ils vont tout le temps être un peu favorisés, ouais, souvent dans le jugement des votants pour le Ballon d'Or, donc forcément qui était pour gagner le Ballon d'Or.
Puis tu sais, ouais, c'est juste de faire la différence éventuellement à un moment donné entre les statistiques ou les trophées. Parce que oui, ça reste que c'est individuel, mais ça reste que tu sais, Messi a amené l'équipe sur son dos, Modric a amené l'équipe sur son dos. Fait que c'est sûr que tout le monde va chialer là, mais ça reste que il y avait deux personnes qui méritaient, c'était Alan ou Messi. Puis je veux pas entendre tout le monde qui disait Mbappé. Non, Mbappé.
Non, je pense pas.
Oui, il a marqué beaucoup de buts, mais au PSG, il était inexistant. Puis Mbappé, s'il veut gagner le Ballon d'Or, maintenant, je pense que le débat, parce qu'on aurait pu même être, mais ça reste qu'il faut bon qu'il y ait au Real Madrid. Parce que sinon, ils gagneront jamais, ou qu'ils changent d'équipe. Parce qu'au PSG, ils gagneront jamais de ballon d'or.
Je suis pas mal d'accord, mais par contre, on a passé à rien d'après moi pour Mbappé, parce que ça s'est joué au penalty en finale de la Coupe
si
du Monde.
Si il gagne la Coupe du Monde, je suis d'accord que là, il l'a.
Si Mbappé met si les penalty à la Coupe du Monde, ben lui a mis les siens, mais si la France réussit ses penalty.
Ouais, il l'a. Il l'a. Parce que, je pense parce qu'au final, les deux jouent au PSG. Fait que c'est sûr qu'il l'a. Mais pour dans le futur, faut qu'il change d'équipe. Il y a pas le choix,
ça va prendre. Ça serait peut-être, en tout cas, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être qu'il aurait dû aller s'il a coulé douce en Arabie Saoudite.
Non, non, non.
Ce contrat d'un million.
Il y a beaucoup de sujets. Là, on n'a pas été en profondeur nécessairement dans la première ligue comme on avait un peu planifié. On aura l'occasion d'en reparler aussi des autres ligues là, européennes. Au fur et à mesure que la Ligue des Champions va progresser, on va pouvoir en reparler. L'Euro approche, si je me trompe pas, c'est cet été.
Ouais, en Allemagne.
C'est ça, fait qu'on va pouvoir mettre la table. Écoute, c'est pas la dernière fois qu'on parle de soccer européen à conduite antisportive. Jacob, tu reviendras.
Écoute,
va nous faire plaisir de te revoir.
Ben oui.
Puis sur ce, bonne soirée. Vous écoutez Conduite antisportive sur Chiz 94.3.